la vraie difficulté derrière, ça a été de faire que le livre ne soit pas qu'un gimmick et de faire que ces histoires soient à la fois indépendantes. Donc, c'est-à-dire que quand on termine une histoire, on est vraiment une vraie quête, un vrai voyage et une vraie compréhension du sens, et que l'autre amène autre chose, à la fois complète et en même temps rajoute des éléments auxquels on n'aurait pas pensé.
Fantasy de Johan Cavege est une bande dessinée originale. Elle rassemble deux histoires, celle d'Alma et celle de Yursenar. Si la première se lit de gauche à droite, la seconde se lit de droite à gauche. Les deux histoires sont chacune les facettes d'une même pièce qui se rejoignent au milieu du livre. De passage à la librairie Lidragon à Niort en avril 2025, Johan Cavege a pu nous en parler plus en détail. Fantasy, une bande dessinée originale de Johan Cavege, un reportage d'Explore le Mag, à la prise de son et au mixage Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.
Bonjour, je m'appelle Johan Cavege et bienvenue sur Explore le Mag. Je suis auteur de bande dessinée depuis quelques années. J'ai sorti en fait ma première BD en 2022 qui s'appelait Moundir, qui est une BD de science-fiction chez Bubble Edition. Et là, je reviens avec ma deuxième bande dessinée qui s'appelle Fantasy, une BD de fantasy, chez Bubble Edition toujours. Et j'avais juste fait un petit passage chez Metal Hurlant en 2023 pour une histoire courte qui s'appelle Signal faible avec Thomas Mourier au scénario. Mais voilà, là, c'est ma deuxième grosse BD au scénario et au dessin. J'ai toujours voulu faire de la BD depuis que je suis tout petit. J'avais fait des études d'animation parce qu'on m'avait quand même toujours dit que la bande dessinée, c'était assez compliqué d'en vivre. Et je me disais que l'animation, c'était ce qu'il y avait de plus proche tout en ayant un rythme de travail un peu plus carré avec un travail en studio, un travail salarié. Mais en fait, en ayant été à mon premier festival d'Angoulême en tant que visiteur, ça m'a rappelé vraiment tout l'amour que j'avais pour la BD, qui n'était jamais vraiment parti, mais que j'avais mis un peu en sourdine. Et notamment, je crois que c'était l'exposition de Taiyo Matsumoto, qui est un mangaka que j'aime beaucoup. Et en tombant sur ses planches, j'ai vraiment été pris, mais quasiment, tu vois, de frissons, enfin un truc qui m'a retourné. Et vraiment, immédiatement, je suis rentré d'Angoulême et j'ai demandé à mes profs de réadapter presque mes exercices parce que je leur disais, en fait, je veux faire de la BD, est-ce que c'est possible de déjà me remettre un peu le pied à l'étrier, parce que j'avais pas pratiqué depuis mon lycée, où tu vois, j'en faisais pour le coup vraiment tout le temps pendant le lycée, à côté de mes cours, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment quitté. Mais il y a eu cette petite incartade vers l'animation qui, je pense, m'a appris pas mal de choses. Mais dès que j'ai eu l'occasion, j'ai retenté la bande dessinée. Et à la sortie des études, j'ai fait ma première BD, donc Moundir. J'avais fait des études d'animation dans une école qui s'appelle l'ESAT, qui est une école dans le nord de la France, qui est très chouette parce que c'est finalement pas si loin de la bande dessinée, au sens où même si c'est un médium différent, l'ESAT nous pousse à faire notre petit film de fin d'études tout seul. Donc à la fois on scénarise, à la fois on dessine. On anime, et du coup je pense que j'ai beaucoup aimé parce que c'était très proche de faire une bande dessinée, mais le milieu de l'animation, que je connais bien parce que j'ai toujours beaucoup d'amis et de collègues qui travaillent, a un côté forcément un peu plus avec une division du travail, une spécialisation qui moi me plaisait moins, et j'étais quand même très content de pouvoir à la fois raconter mes histoires et les dessiner. Il y a, c'est sûr, cette envie de contrôler un peu tout le projet, mais à vrai dire, moi, je le prends plutôt comme ça me permet de contourner un peu mes lacunes en écrivant et en dessinant pour moi. Là où, en fait, moi, ça me mettait énormément de pression de dessiner pour une équipe, enfin, tu vois, d'avoir beaucoup, beaucoup de gens qui comptaient sur moi. La bande dessinée, ça reste un travail collectif parce qu'il y a un travail éditorial, il y a des gens qui font le lettrage, des gens qui font la maquette, et puis tous les gens qui construisent le livre jusqu'à ce qu'il arrive dans nos mains, même les gens qui le vendent et tout. Enfin, ça reste une chaîne aussi, mais il y a une partie où je me sens un peu plus en contrôle. Et où je suis un peu plus face à moi-même. Et voilà, s'il y a des gens à blâmer pour des bêtises, ce sera plus moi. Mais ça me permet aussi, tu vois, s'il y a une scène que je veux pas dessiner, je peux la réadapter. Et aussi d'écrire des scénarios qui me correspondent à ce que je veux faire sur le moment. Même si je serais pas contre, à terme, j'aimerais bien essayer bientôt de travailler avec un ou une scénariste, peut-être sur des projets plus courts, mais pour varier, pour me faire sortir un peu de ma zone de confort. Mais voilà, j'ai vécu ces premières BD comme pas des échauffements, mais tu vois, j'étais quand même dans une partie d'apprentissage encore, et c'était plus facile pour moi d'écrire et de dessiner ma propre histoire. J'ai tendance à pas mal structurer en blocs ce que je fais, donc j'ai vraiment une grosse partie d'écriture d'abord, mais je me concentre vraiment sur les actions, sur un peu de descriptif, mais en fait je laisse après beaucoup de place au storyboard, qui je pense est vraiment l'étape clé pour moi. C'est au storyboard que j'écris les dialogues. C'est au storyboard que le rythme vraiment est trouvé. À l'écriture, j'ai déjà une certaine idée de la pagination, parce que j'écris en prose, et après, j'arrive à me projeter à peu près sur combien d'actions je peux raconter en une page. Mais c'est au storyboard que tout ça se précise. Même si c'est ce que j'aime bien dans ce métier-là, c'est qu'il y a toutes les étapes, il y a quand même des changements. Justement, ça, c'est aussi un truc que permet de faire la BD par rapport à de l'animation, par exemple, où les étapes sont très structurées et tu peux pas commencer à saccager le travail de l'équipe qui a fait l'étape d'avant. Moi, je peux encore au dessin me dire « Ah ben, en fait, il manque deux pages » ou alors cette partie-là, je suis pas forcément convaincu au dessin, donc je vais la retirer. Et du coup, jusqu'à la dernière minute, il y a des changements à l'écriture, alors même que je suis à la partie couleur parfois. Enfin, j'aime bien quand même avoir ces petits allers-retours, mais pour poser les bases, j'ai quand même tendance à structurer vraiment écriture, storyboard et dessin. C'est plus simple pour moi de fonctionner comme ça. Pour dessiner, je fais d'abord mon storyboard à l'ordinateur. Ce qui me permet de placer les dialogues, tu vois, de les taper à l'ordi plutôt que les taper à la main et tout ça, pour pouvoir les remodifier facilement. Quand le storyboard est posé, en fait, je l'imprime et il me sert de crayonné. Donc c'est un crayonné finalement très 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 brouillon parce qu'il n'y a aucune proportion qui est posée. Mais ça me permet ensuite de dessiner quasiment à main levée dessus au traditionnel, à la table lumineuse. Donc je mets mon storyboard, une planche de papier cartonné et puis je dessine dessus. Et en gros, ça donne. J'ai pas forcément d'étape de crayonné, mais j'ai une étape de dessin ancré assez stimulante, assez vivante, assez exigeante aussi. Et là où sur Mounir, j'avais quasiment pas triché, sur Fantasy, j'ai dû assez vite ramener quand même du crayon bleu pour recrayonner certaines parties, parfois la page entière, mais parfois juste certains détails qui n'étaient pas assez précis au storyboard. Mais je trouve que ça apporte certaines qualités parce qu'au storyboard, comme on n'est pas enfermé par le modèle, donc le modèle du personnage, c'est la manière dont on dessine pour qu'ils se ressemblent d'une case à l'autre, au storyboard, on s'en moque un peu plus et on adapte souvent la tête du personnage à l'expression qu'on veut sur le moment. Ce qui permet d'avoir des expressions très intenses que j'essaye après de regagner derrière en les remettant au modèle. Parfois, ça fait que c'est un peu compliqué, on perd l'un ou on perd l'autre, mais je trouve ça plus agréable de travailler comme ça. Et une fois que j'ai mes planches en noir et blanc, je scanne, je nettoie et je fais la couleur à l'ordinateur pour le coup. Parce que moi je suis un peu daltonien comme pas mal de gens je pense, mais du coup personnellement ça me permet d'avoir plus de contrôle sur la couleur de la ferro numérique, de savoir exactement quelle couleur j'utilise avec des petites jauges qui me disent t'as tant de rouge, tant de sombre, tant de lumière, tant de saturation. Et ce que j'aime bien faire, ce que j'avais fait déjà sur Mundir, c'est rajouter un peu de texture que pour le coup j'ai faite à la main, donc des textures d'aquarelle et de crayon qui redonnent un peu de chaleur, un peu de corps au dessin pour justement pas qu'il y ait un aspect trop numérique. Ma première BD, Mundir, c'est une BD un peu à twist, on peut dire, et qui en vrai partait de plusieurs inspirations. Il y avait des inspirations graphiques et d'ambiance d'abord, inspirées par mes premières découvertes un peu du travail de Moebius quand j'étais en études. Mais notamment de son travail d'illustration plus que de bande dessinée, ce qui m'avait donné des envies de décors, de grands espaces un peu mystérieux, un peu étranges, mi-inquiétants, mi-fascinants. J'avais ça d'un côté, qui donnait un univers mine de rien assez vide, un peu angoissant, et de l'autre côté j'ai eu cette idée du petit cerf qui est venu du petit cerf astronaute, qui habitait cet univers et qui créait un contraste que je trouvais intéressant. Et c'est vrai que ouais, pour moi c'était un peu de l'écriture automatique au début, je m'amusais juste, j'avais pas un vrai projet BD construit avec ça. Et avec les premières réactions de mon entourage, je commençais à me dire que je voulais peut-être créer un contre-pied scénaristique. Est-ce que les gens s'attendaient d'une telle aventure avec ce petit cerf-là? D'autant plus que moi je voulais expliquer quand même avec cette histoire plus à l'avancée pourquoi cet univers était vide, que ce soit pas juste un joli décor, mais créer presque une cosmogonie de pourquoi l'univers entier serait vide, donner une vraie réponse à ça. Et du coup intégrer le petit cerf à cette histoire. Et c'est pour ça ouais, que Mundir, derrière ses atours assez mignons au début, a une fin et un univers en général beaucoup plus sombre que ce à quoi on pourrait s'attendre, et qui implique ce petit cerf dans l'histoire et dans les parties pas toujours très cool de cette histoire. Je pense qu'il y avait un pur truc sensoriel, cette fascination pour le silence et pour le côté à la fois ouais, apaisant et terrifiant en même temps. Et je pense que le challenge de rendre ça en bande dessinée en fait, parce que ça n'a pas toujours... Vous me dire, c'est une BD qui est quasiment muette aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, je m'étais beaucoup posé la question de est-ce que je le fais comme ça? Est-ce que peut-être ce petit cerf qui est beaucoup dans son vaisseau a, je sais pas, un ordinateur avec lequel il discute? Et en fait, plus ça avançait, plus je me rendais compte que c'est une BD qui marchait beaucoup par le non-dit pour que ces révélations de fin fonctionnent. Donc d'un côté, on a ce non-dit, de l'autre côté, on a un univers silencieux. En fait, tout indiqué à faire une BD avec le moins de texte possible. Ce qui m'a permis de travailler des trucs que j'aurais pas pensé travailler, comme les onomatopées, donner beaucoup plus de poids au bruit, en fait. Même travailler un lettrage qui était assez gros, assez envahissant dans la page, pour que même s'il y ait peu de texte, bah, dès qu'il y a du texte ou un bruit, ils viennent troubler ce silence-là. Donc ouais, il y avait un jeu sur le son qui était assez intéressant, c'est toujours un challenge en BD de traiter le son. Ne pas avoir de dialogue, ça, pour moi, ça a été presque une facilité de découpage. En fait, ça a permis de me concentrer là-dessus, d'avoir un découpage beaucoup plus ludique, parce qu'il fallait qu'il soit hyper parlant, hyper clair. Mais en même temps, il n'y avait pas le texte qui tout bêtement prend de la place dans la page. Et c'est plutôt en fait sur Fantasy, qui est un récit beaucoup plus dense, avec beaucoup plus de dialogue, que je dirais pas que ça a enfermé mon découpage, mais ça l'a rendu moins tape à l'œil, beaucoup plus subtil quand je voulais faire des effets de style, parce qu'il y avait déjà tout ce texte à placer avant même de commencer à penser à la composition de la page, quoi. Moi, le muet me donne une liberté et m'amène, j'ai l'impression, un côté plus ludique pour stimuler en fait l'œil constamment, parce que quand on n'a pas de texte, c'est quand même assez dur de s'accrocher à une BD, on peut avoir tendance à la traverser un peu vite, à tourner les pages un peu vite. Et à travers ces structures de pages qui changeaient un peu à chaque page, justement, je maintenais un peu l'attention, quoi. Je pense qu'il y avait eu trop de gaufriers ou un rythme un peu trop régulier, on aurait pu avoir tendance, là, pour le coup, à vraiment lire les pages trop vite. Et moi, je voulais réussir à arrêter le lecteur au moment où je voulais et à créer de l'accélération au moment où je voulais. Fantasy, c'est un récit qui a cette particularité d'être deux histoires en une. Alors c'est pas ainsi que j'ai d'abord pensé avec ce gimmick, en fait. Moi j'ai eu plusieurs inspirations qui bouillonnaient un peu, j'avais à la fois des raisons de vie de récits d'aventure en fait assez simples, assez essentialistes et avec des envies un peu de dark fantasy qui trottaient, je commençais à dessiner un peu de ce côté-là, et en même temps je commençais à développer une fascination pour le shoujo, notamment d'une certaine époque, La Rose de Versailles en particulier, qui est donc le nom de Lady Oscar, le nom du manga, qui me fascinait par ses sentiments extrêmement exacerbés, mais aussi graphiquement, avec ses motifs de fleurs, de paillettes, ses cheveux qui bouclent et qui n'en finissent pas. Enfin, esthétiquement, je trouvais ça hyper fort comme langage. Et du coup, j'avais ces deux envies qui commençait au fur et à mesure que j'avançais à écrire des histoires de ces deux collègues, à thématiquement se rencontrer. Et en fait, la structure du livre, quand je me suis dit, mais il n'y a aucune raison, après tout, de ne pas pouvoir mélanger ces deux univers qui ne font que s'appeler, en fait, plus je les dessine. Et donc, le concept du livre, en plus, c'était une réponse à un questionnement qu'un point de départ. Et dès que j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit, ah bah, j'ai plus qu'à réarticuler un peu ces deux histoires pour qu'elles aient une cohérence entre elles. Et il y avait déjà en fait toutes les thématiques qui étaient déjà là, l'envie de parler d'amour, du divin, l'envie de parler de rencontres, l'envie de parler de difficultés du langage et du dialogue et tout ça était présent et a été renforcé par la structure du livre qui littéralement a deux sens de lecture pour une même situation, pour deux peuples qui ne se comprennent pas et qui n'ont pas le même langage et qui, pour une rencontre qui part de très loin à travers le temps et l'espace, mais qui est destinée à se passer, marchait très bien, était très cohérente avec cette rencontre physique dans le livre et dans l'objet, quoi. Donc la vraie difficulté derrière, ça a été de faire que le livre ne soit pas qu'un gimmick, et de faire que ces histoires soient à la fois indépendantes, donc, c'est-à-dire que quand on termine une histoire, on est vraiment une vraie quête, un vrai voyage et une vraie compréhension du sens, et que l'autre amène autre chose, à la fois complète, mais en même temps rajoute des éléments auxquels on n'aurait pas pensé. Et je pense qu'il y a un intérêt différent à commencer par une histoire ou l'autre, sachant que mon but, c'est que vraiment vous commencez par celle que vous voulez, parce que j'ai essayé de les mettre à égalité parfaite, que ce soit dans la maquette ou en termes de soins apportés à l'histoire. Mais je pense que d'un côté, si vous commencez par l'histoire d'Alma, qui est cette princesse humaine qui doit aller chasser des dieux, vous aurez une histoire d'aventure sur le temps assez court. Et en fait, l'autre histoire vous ramènera un peu plus de lore et de contexte, contextualisera l'univers, donnera des réponses sur des environnements, sur des malentendus qu'il aurait pu avoir. Alors que si vous commencez par l'histoire de Yursenar, qui est cette déesse qui va tomber amoureuse d'une humaine, mais qui va devoir patienter 1000 ans avant de la rencontrer, là vous êtes sur une histoire beaucoup plus longue, qui va traverser les siècles, qui va montrer même l'arrivée des humains, comment elle va réussir à s'enticher de cette humanité, la faire perdurer, mais en même temps, comment elle va s'en sortir par rapport à cette attente qu'elle a de l'humanité aussi. Et ça, c'est une histoire qui, elle, aura une fin beaucoup plus abrupte, qui posera peut-être beaucoup plus de questions et qui donnera plus l'envie de lire l'histoire pour compléter un peu des points manquants, pour le coup. Donc je pense que les deux ont leur intérêt et c'est un peu en fonction de votre affect du personnage ou de la couverture. Voilà, j'ai essayé de laisser le choix. On avait essayé de pousser le concept au maximum, en tout cas sans toujours trouver le bon équilibre entre le gimmick et les bons choix. Moi, c'était important pour moi que, puisque je voulais qu'on termine sur une double page finale qui lie les deux histoires, qu'elles aient pile le bon nombre de pages, le même nombre de pages, ouais, en termes de maquettes, que pareil, les couvertures se répondent parfaitement, que même pour quoi avoir le même nombre de folios, les pages de garde, tout ça. Je voulais pas avoir un livre tout en miroir, à la case près, parce que je pense que là, on aurait été dans un exercice de style qui aurait parasité un peu ce que je voulais raconter. Mais par contre, il y a évidemment des événements qui se répondent et il y a évidemment des scènes clés qui, quand elles sont vécues par les deux personnages, pour le coup, sont racontées avec quelques points communs. Mais quand il y a des différences subjectives de points de vue, bah, elles seront aussi traduites. Souvent, dans ces passages-là, ce que j'essayais de faire, c'est garder le même gaufrier de cases, le même type de découpage, mais le réadapter avec des petites subtilités, des petits jeux d'échelle, par exemple. Puisqu'on a une histoire d'une géante et d'une humaine, bah, un gaufrier de 9 cases qui pourrait, par exemple, montrer l'humaine sur ces 9 cases, bah, il y aura de l'autre côté, au même endroit, le même gaufrier, mais en fait, c'est la tête de la géante qui prendra la taille des 9 cases. Donc, il y a des petits jeux comme ça, mais que j'essayais toujours de rendre cohérent avec l'histoire, avec ce que la page racontait, pour pas être que dans des effets de style. C'est toujours sympa, mais c'était pas le cœur de ce que je voulais faire. Par exemple, je peux vous montrer quelques pages qui se répondent. Bah, déjà, je pense que rien que la première page de chaque histoire est parlante, parce que pour moi, la première page, c'est presque une lettre d'intention, où en fait, on a la première page d'Alma, donc, qui regarde l'horizon comme ça, de profil à son balcon, et la première page de Yourcenar, c'est la même page, avec tout de suite un rapport d'échelle qui est posé, parce que Yourcenar est beaucoup plus grande dans la page, et même la page suivante, elles, pour le coup, sont cadrées par elles, pareil, avec ces doubles pages qui présentent le premier univers et ces deux lunes qui sont un symbole, les lunes jumelles qui sont importantes dans l'histoire, je cadre bien. Et tu vois, d'un côté, Yourcenar regarde ses lunes jumelles, c'est le plus beau jour de sa vie qui est annoncé, alors que pour Alma, on a les mêmes lunes jumelles à un moment différent dans le temps, parce que Yourcenar, c'est parce qu'il y a 1000 ans au début, mais pour elle, c'est une ambiance beaucoup plus apocalyptique, parce que entre-temps, bah, pour les humains, les lunes jumelles ont appris à vouloir dire tout autre chose. Et des jeux comme ça, on en a, alors je vais essayer de trouver des pages qui spoilent pas trop, mais sur cette page-là, on a cette pleine tête qui prend ce gaufrier, parce qu'on là on a une partie très très introspective, et c'est ce personnage de Yourcenar qui se livre en fait à ce moment-là, et qui remet plein de choses en question, donc c'est comme si on avait un gros plan sur elle, alors que côté Alma, pour le même passage, comme c'est un dialogue entre les deux, à distance. Côté Alma, en fait, on a plusieurs révélations en fait, dans ce que raconte Yourcenar, qui joue à plusieurs échelles, à des échelles plus personnelles à certains moments, mais à des échelles plus grandes en termes de relations sur l'univers, choses comme ça. Et du coup, elle, j'ai cadré beaucoup plus grand avec, là, pour le coup, trois petites scénettes. Et après, l'autre page qui fait un miroir parfait. Et donc, voilà, c'était un jeu constant de miroirs, puis de différences, puis de remiroirs, qui était très amusant à faire. Et très ludique. Au scénario, il y avait des séquences qui j'avais prévu qu'elles se répondent. Il y en a d'autres où je me suis rendu compte, même dans un second temps, que je pense que naturellement, on a certaines structures quand on écrit. Et du coup, même sans essayer de caler parfaitement les structures, bah, en fait, j'avais des révélations qui arrivaient à peu près au même moment ou qui étaient de même nature. Enfin, j'ai essayé de penser les histoires en indépendant, mais il y avait vraiment des choses thématiquement qui les rapprochaient. Et du coup, ça m'a même rajouté plus de ces moments un peu miroirs que ce que j'avais prévu initialement. Et là, oui, c'est au storyboard que tout ça se joue et qu'on essaye voilà, d'avoir des pages qui évoquent l'autre, même si toute l'idée, c'est que voilà, il faut que ça puisse se tenir, parce que quand tu lis la première histoire, cet effet de miroir, tu l'as pas encore. Tu le comprends que quand tu relis la seconde. Et du coup, faut pas que ça parasite l'histoire, faut que ce soit quelque chose qui apparaisse comme naturel dans le découpage. Pour le style de dessin de fantasy, il y a eu deux choses. Il y avait forcément déjà l'envie d'avoir quand même une continuité de Mundir. Moi, j'avais tendance, quand j'étais en école d'art, à être le genre d'élève qui change de style à chaque projet. Je faisais de ma polyvalence une force, mais je pense que c'était aussi un peu une fuite en avant pour jamais apprendre à perfectionner un peu ce qu'on faisait. Et du coup, là, je me suis forcé à quand même garder les mêmes outils que Moundir, le même format et une certaine manière de travailler en commun. Donc, il y a, je pense, quand même une continuité un peu naturelle de ce que j'ai fait sur Moundir, même si le changement est assez visible, parce que dans Moundir, il n'y avait aucun personnage humain, très peu de décors avec lesquels on pouvait avoir un référent, tout bêtement, c'est que des planètes complètement imaginaires. Donc rien que là, en fait, même avec le même style, entre guillemets, ou la même continuité de style, il y a un changement qui se fait. Et en plus de ça, j'ai eu des inspirations qui sont presque toujours un peu présentes, mais qui là étaient quasiment impossibles à condenser. En gros, j'avais l'envie initiale, en tout cas, de faire quelque chose d'épuré comme du Mike Mignola, de doux et esthétique comme du Ikeda, donc de la Rose de Versailles, et en même temps détaillé et rempli de motifs comme du Sergio Topi. Donc trois styles graphiques qui sont assez à l'opposé. En plus, les trois sont en noir et blanc alors que la BD est en couleur. Donc autant dire que c'est pas des inspirations que j'ai essayé de rendre très visibles, mais je pense que ça restait des choses qui ont un peu infusé. À mon avis, peut-être que dans la partie Alma, où les masses de noir sont peut-être un peu plus présentes, on peut retrouver un peu plus de Mignola facilement, mais même ça, j'essaie de pas le rendre trop envahissant, parce que c'est des artistes pour lesquels j'ai énormément de respect, parce qu'ils ont leurs pattes, et dès qu'on s'en inspire trop, c'est immédiatement visible, quoi. C'est toute la force de leurs traits font qu'ils sont immédiatement reconnaissables. Donc j'essaye d'avoir des inspirations graphiques qui sont plus juste qui me donne envie de dessiner, mais que j'essaye pas d'émuler ou j'essaye pas de m'en rapprocher. J'essaie de lire un peu de tout en bande dessinée, mais j'ai eu dans une partie formateur de mon dessin une grosse partie comics. Je pense que entre le lycée et mes premières années d'école d'art, j'étais un gros lecteur de comics, donc à mon avis, il y a une approche de la masse de noir qui vient de ça. Après, j'ai quand même des restes du manga, notamment quand j'étais en primaire ou au collège, où je lisais que ça. Et je pense que, par exemple, mon découpage des scènes d'action est beaucoup plus proche de ce qui se trouve dans le manga. D'autant plus que là, mine de rien, il y a assez peu de place à l'action, tu vois, même dans l'histoire d'aventure et tout, le focus n'est pas là. Et du coup, j'avais moins de place que ce que je me serais imaginé pour les scènes d'action. Là, sur Moundir, ce qui est quasiment une très grande scène d'action par moment. Et du coup, là, l'idée était d'arriver à rendre des scènes très, très dynamiques en très peu de pages, quoi. Une péripétie qui peut-être, si j'avais eu un nombre de pages infini, aurait pris 5-6 pages. Là, parfois, j'avais une page ou une demi-page pour le faire, donc en 3-4 cases, il fallait qu'on ait un enchaînement, un truc spectaculaire, un truc un peu badass. Et ça, je pense que c'est des restes du manga qui me sont restés, parce qu'en termes de dynamisme et de force de l'action, je trouve qu'ils sont invincibles là-dessus, les auteurs japonais, par rapport aux comics, qui a quand même un côté un peu plus figé. Et après, par exemple, pour la gestion de la couleur, je sais pas trop. Il y a sûrement une partie de comics un peu. En même temps, moi, je suis aussi pas mal inspiré par les BD franco-belges que je lis pour la couleur. Enfin, la couleur du comics mainstream, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Là où je trouve qu'en France, on a beaucoup de gens qui font de la couleur directe et qui ont des super rendus. Donc, je suis un gros lecteur. J'essaie vraiment de lire de tout, mais j'essaie de pas trop m'arrêter sur un truc parce que je me dis que sinon, ça va me parasiter un peu et j'aurais trop envie de faire la même chose, quoi. Je suis très facilement impressionnable et donc je risque d'être influençable. Donc voilà, j'essaie de pas trop surintellectualiser le truc pour pas justement pour pas trop me bloquer dans tel ou tel référent. Le titre de Fantasy, ça a été un peu un débat en interne parce que moi, ça a été mon titre de travail qui faisait beaucoup sens, notamment dans les premières versions du script. Je pense le fait encore maintenant. Il y a évidemment un double sens, il y a prendre Fantasy au sens auquel on pense en premier, le sens du genre de la Fantasy. Avec forcément un petit côté de « Ah bah on va faire de la fantasy, mais à ma manière, dans un univers qui est pas très proche de ce que ferait par exemple du Tolkien ou du Warcraft, c'est un univers fantasy qu'on intégrait avec des orques, des nains et tout ça, là c'est un univers un peu différent. » Mais pour moi aussi, c'était prendre le mot au sens propre, la fantasy au sens d'un fantasme, au sens d'un mythe, qui pour moi racontait ce que vont vivre un peu ces personnages-là, qui sont les deux personnages, Alma et Ursenar, qui ont une certaine vision du monde très tronquée, très idéalisée à leur manière, une idée de ce que va être leur quête, de ce que va être leur vie, leurs attentes, et qui va être confrontée à la réalité, et qui vont comprendre que voilà, elles vivent dans un monde un peu de fantasmes et d'idées reçues. Le mot avait aussi ce sens-là, quoi, presque de le prendre comme un... créer une ironie dramatique avec ce terme-là, quoi, que quand tu refermes le bouquin, tu dis « Ah, je vois pourquoi c'était ce point de départ-là, même si on a terminé sur autre chose. » Mais on a beaucoup hésité, mais on a pas réussi à trouver un titre qui collait finalement plus au livre. Et maintenant qu'on a le logo du livre qui a été fait par un artiste d'un studio qui s'appelle Black Studio, L'artiste s'appelle Spade. Et maintenant qu'on a ce logo-là, que j'aime beaucoup, sur lequel on a beaucoup travaillé pour qu'il ait et ce mélange de médiéval, de futuriste, en même temps d'avoir un truc quand même design et assez sobre, bah, ça a donné une matérialité au titre qui maintenant pour moi correspond vraiment au bouquin et j'arrive plus à l'imaginer sans ce titre-là. Quoi. Même si j'ai passé plusieurs mois à me dire est-ce que c'était le bon titre, faut se dire que moi j'y pense pas pour, comme ça, mais pour mon éditeur ça reste un vrai gage de confiance d'accepter d'appeler le bouquin comme ça, parce que pour le référencement Google, ils vont s'amuser, on va s'amuser à trouver le bouquin, voilà donc. Mais voilà, c'était le titre qui correspondait le plus, donc on est parti là-dessus. Le double sens du mot peut même juste tout simplement correspondre aux deux faces en fait de l'histoire avec cette fantasy qui est évidemment là, on a toute l'image de la fantasy, on a l'épée, la chevalière, le côté épique, et là on a le côté, on a déjà le regard doux et l'idée de romance qui est, j'imagine, quand même suggérée par cette couverture. Et du coup, en effet, bah, le mot est déjà de base ces deux sens qui sont, sur lesquels on joue. Je pense que c'est pas un récit qui a la prétention d'avoir un discours, par exemple, sur le féminin ou même sur, puisque c'est une histoire d'amour, qui a pas un discours sur le lesbianisme ou une histoire d'amour là-dessus. Ça reste une histoire d'amour plus globale. J'ai fait confiance plus d'abord au dessin que j'avais fait. En fait, les deux personnes sont venues d'abord graphiquement. Et du coup, bah, pour moi, j'avais aucune raison de les changer alors que c'était les persos qui ont inspiré ça. Et je me disais que si, par exemple, ça avait été un couple hétéro dans cette BD-là, l'histoire aurait fonctionné de la même manière, mais peut-être que la fin, je me sens trop la révéler, mais je pense que la fin avait besoin d'avoir des personnages qui étaient assez semblables et égalitaires, et un couple hétéro aurait pu créer une lecture féministe très rentre-dedans. Et moi, j'ai évidemment aucun souci à faire un récit féministe, mais là, je pense que ça aurait presque été mal fait. Donc, je pense que c'est important que les persos aient le même genre pour être à égalité parfaite. Et si ça avait été deux hommes, le récit aurait marché tout aussi bien. Simplement, ça aurait fait un récit avec majoritairement des personnages masculins. Et là, j'avais quand même envie de mettre un peu plus de persos féminins dans mes histoires. Donc, voilà. En fait, c'était l'équation qui fonctionnait le mieux. Mais je pense que c'est un récit qui, puisque c'est de la fantasy, qui n'est pas exactement dans les mêmes cadres que notre monde réel, n'a pas vocation à être militant de cette manière-là, même si, moi j'ai encore une fois, si c'est pris comme un récit féministe et militant, tant mieux. C'est juste que j'aurais pas cette prétention-là, parce que j'avais pas l'espace pour raconter ça autant que j'aurais fait dans un autre récit, peut-être plus ouvertement politique. Pour savoir par quel côté commencer, je pense que c'est un peu... moi, mon but a été de faire que ce soit égalité parfaite et que vraiment, vous commenciez par l'histoire que vous voulez. Maintenant, ce que je peux dire sans trop spoiler, c'est que si vous lisez l'histoire d'Alma, vous aurez un récit un récit d'aventure avec un début peut-être plus rapide, plus... on rentre dans le vif du sujet peut-être un peu plus vite. Et c'est un récit court et qui ensuite sera contextualisé avec plein de lore et plein de réponses à certaines petites questions, certains petits environnements de ce côté-là. Mais si vous commencez par Ursonar, vous aurez un récit plus dense, plus sur le temps long, avec plus d'émotions, plus de romance, mais qui aura cette fin qui, je pense, vous laissera un goût d'inaccompli et qui vous poussera à lire le côté Alma pour avoir les réponses. Parce que typiquement, en fait, des deux côtés de l'histoire, que ce soit les humains ou les dieux, ils voient assez peu ce qui se passe de l'autre côté, en fait, pendant un temps. Notamment toute la deuxième partie du Ursonar va assez peu comprendre ce qui se passe du côté des humains. Et donc, c'est pour ça que les deux récits ont leur intérêt et se complètent bien. Mais moi, je vous encouragerais à commencer par la partie qui vous donne le plus envie. Moi, j'avoue que je m'investis vraiment à 100% dans les albums que je fais, et même, l'étape de la couleur qu'on pourrait penser comme quelque chose d'un peu plus mécanique, moi, me demande beaucoup de concentration. Surtout que c'est un récit mineur qui a été fait très vite, fantasy en fait. Même si Moundir est sorti en 2022, donc là on est en début 2025, il n'y a pas eu 3 ans de boulot sur fantasy, il y a eu moins que ça. Et du coup, la plupart des étapes de dessin et de couleur ont été faites de manière très compressée, donc j'étais focus à fond là-dessus. Et donc j'ai pas, tout ça pour dire que j'ai pas forcément eu le temps de réfléchir à un autre projet derrière. Mais je me laisse un peu des portes ouvertes, j'ai quelques petites idées, quelques petites envies, mais je vais prendre le temps de laisser ça maturer. Et oui, peut-être aussi faire quelques petites histoires courtes à nouveau pour juste se roder, expérimenter un peu avant de se relancer dans un truc plus long. Si vous voulez me suivre, je suis sur, pour l'instant, beaucoup de réseaux sociaux, sur Instagram, sur Blue Sky, même Tumblr, je crois. Enfin voilà, si vous cherchez la BD en tapant mon nom, en tapant Bubble BD, vous trouverez sûrement mes réseaux. Ou en ce moment, forcément, je partage beaucoup de la tournée de dédicaces qu'on fait, parce qu'on fait une grosse tournée de dédicaces pour le bouquin. Mais bientôt, j'essaierai de partager déjà quelques petits dessins préparatoires, peut-être pour des prochains projets, et aussi un peu de recherche de fantasy que c'est vrai que j'ai pas trop partagé. Donc voilà, je vais essayer d'alimenter un peu tout ça dans les prochains mois.
C'était Fantasy, une bande dessinée originale de Johan Cavej. Un reportage d'Explore le Mag, à la prise de son et au mixage Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.